Chapitre 5. On se souviendra de la débauche d'hyperbole de la presse parisienne qui dura 10 longues journées. Déjà, on commence à revenir de cette exubérance d'admiration forcée, et l'on arrivera bientôt à considérer ces jours d'enthousiasme et d'apothéose comme un moment de folie inexplicable. Il serait oiseux de discuter si dans un avenir prochain les œuvres de Victor Hugo vivront dans la mémoire des hommes, comme celles de Molière et de La Fontaine en France, de Heine et de Goethe en Allemagne, de Shakespeare en Angleterre, de Cervantes en Espagne, ou bien si elles dormiront d'un sommeil profond à côté des poèmes du cavalier marin, feuilletés avec lassitude seulement par quelques érudits étudiant les origines de la littérature classique. Cependant, les lettrés du XVIIe siècle annonçaient que l'Adone effacerait à jamais le Roland Furieux, la Divine Comédie et l'Iliade, et des foules en délire promenaient des bannières où l'on proclamait que l'illustre marin était l'âme de la poésie, l'esprit des lyres, la règle des poètes, le miracle des génies, celui dont la plume glorieuse donne au poème sa vraie valeur, au discours ses couleurs naturelles, au vers son harmonie véritable, à la prose son artifice parfait, admiré des docteurs, honoré des rois, objet des acclamations du monde, célébré par l'envie elle-même, etc., etc. Shakespeare mourait, oublié de son siècle. Parfois, les générations futures ne ratifient pas les jugements des contemporains. Mais la critique historique, qui n'admire ni ne blâme, mais essaye de tout expliquer, adopte l'axiome populaire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Elle pense que l'écrivain acclamé par ses contemporains n'a conquis leurs applaudissements que parce qu'il a su flatter leurs goûts et leurs passions, et exprimer leurs pensées et leurs sentiments dans la langue qu'ils pouvaient comprendre. Tout écrivain que consacre l'engouement du public, quels que soient ses mérites et démérites littéraires, acquiert par ce seul fait une haute valeur historique et devient ce que Emerson nommait un type représentatif d'une classe, d'une époque. Il s'agit de rechercher comment Hugo parvint à conquérir l'admiration de la bourgeoisie. La bourgeoisie, souveraine maîtresse du pouvoir social, voulut avoir une littérature qui reproduisît ses idées et ses sentiments et parla la langue qu'elle aimait. La littérature classique élaborée pour plaire à l'aristocratie ne pouvait lui convenir. Quand on étudiera le romantisme d'une manière critique, les études faites jusqu'ici n'ayant été que des exercices de rhétorique, où l'on s'occupait de louer ou de dénigrer au lieu d'analyser, de comparer et d'expliquer, on verra combien exactement les écrivains romantiques satisfaisaient par la forme et le fond les exigences de la bourgeoisie, bien que beaucoup d'entre eux n'aient pas soupçonné le rôle qu'ils remplissaient avec tant de conscience. Hugo ne se distingue ni par les idées, ni par les sentiments, mais par la forme. Il en était conscient. La forme est pour lui la chose capitale. Ôtez, dit-il, à tous ces grands hommes cette simple et petite chose, le style. Et de Voltaire, de Pascal, de Boileau, de Bossuet, de Fénelon, de Racine, de Corneille, de La Fontaine, de Molière, de ses maîtres. Que vous restera-t-il? Ce qui reste d'Homère, après avoir passé par Bitobé. Note du lecteur. Bitobé est un pasteur calviniste ayant traduit les œuvres de l'Iliade et de l'Odyssée. Il est ici dénigré par l'auteur. Fin de note. La vérité de l'observation et la force et l'originalité de la pensée sont choses secondaires qui ne comptent pas. Citation. La forme est chose plus absolue qu'on ne pense. Tout art qui veut vivre doit commencer par bien se poser à lui-même les questions de forme, de langage et de style. Le style est la clé de l'avenir. Sans le style, vous pouvez avoir le succès du moment, l'applaudissement, le bruit, la fanfare, les couronnes, l'acclamation enivrée des multitudes. Vous n'aurez pas le vrai triomphe, la vraie gloire, la vraie conquête, le vrai laurier, comme dit Cicéron. Insignia victoriae, non victoriam. Note du lecteur, c'est le signe de la victoire, pas la victoire elle-même. Fin de note. Victor Cousin, le romantique de la philosophie, et Victor Hugo, le philosophe du romantisme, servirent à la bourgeoisie l'espèce de philosophie et de littérature qu'elle demandait. Les Diderot, les Voltaire, les Rousseau, les D'Alembert et les Condillac du XVIIIe siècle l'avaient trop fait penser pour qu'elle ne désirât se reposer et goûter sans cassement de tête une douce philosophie et une sentimentale poésie qui ne devaient plus mettre en jeu l'intelligence, mais amuser le lecteur, le transporter dans les nuages et le pays des rêves, et charmer ses yeux par la beauté et la hardiesse des images, et ses oreilles par la pompe et l'harmonie des périodes. La révolution de 1789 transplanta le centre de la vie sociale de Versailles à Paris, de la cour et des salons, dans les rues, les cafés et les assemblées populaires. Les journaux, les pamphlets, les discours étaient la littérature de l'époque. Tout le monde parlait et écrivait, et sans nulle gêne piétinait sur les règles du goût et de la grammaire. Un peuple de mots, de néologismes, d'expressions, de tournures et d'images, venus de toutes les provinces et de toutes les couches sociales, envahirent la langue polie, élaborée par 2 siècles de culture aristocratique. Le lendemain de la mort de Robespierre, les grammairiens et les puristes reprirent la férule arrachée de leurs mains et se mirent à l'œuvre pour expulser les intrus et réparer les brèches de la langue du XVIIIe siècle, ouvertes par les sans-culottes. Ils réussirent en partie, et imitant les précieuses de l'hôtel Rambouillet, ils châtrèrent la langue parlée et écrite de plusieurs milliers de mots, d'expressions, qui ne lui ont pas encore été restitués. Heureusement que Chateaubriand, suivant l'exemple donné par les royalistes des Actes des Apôtres, qui avait soutenu le trône et l'autel dans le langage des Halles, défendit, au grand scandale des puristes, la réaction et la religion avec la langue et la rhétorique enfantées par la Révolution. Le succès d'Atala, du génie du christianisme et des martyrs, fut immense. L'honneur d'avoir dans ce siècle non pas créé, mais consacré littérairement la langue romantique appartient à Chateaubriand, qui fut le maître de Victor Hugo. Mais Chateaubriand, à l'exception d'une petite chanson fort connue et d'une pièce de théâtre justement inconnue, n'écrivit qu'en prose. Il restait encore à briser le moule du vers classique, à assouplir le vers à une nouvelle harmonie, à l'enrichir d'images, d'expressions et de mots que possédait déjà la prose courante, et à ressusciter les vieilles formes de la poésie française. Victor Hugo, Lamartine, Musset, Vigny, Gautier, Banville, Baudelaire et d'autres encore se chargèrent de cette tâche. Hugo, aux yeux du gros public, accapara la gloire de la Pléiade romantique, non parce qu'il fut le plus grand poète, mais parce que sa poétique embrasse tous les genres et tous les sujets, de l'ode à la satire, de la chanson d'amour au pamphlet politique. Et parce que il fut le seul qui mit en vers les tirades charlatanesques de la philanthropie et du libéralisme bourgeois. Partout, il se montra virtuose habile. Ainsi que les modistes et les couturières parent les mannequins de leurs étalages des vêtements les plus brillants, pour accrocher l'œil du passant, de même, Victor Hugo costuma les idées et les sentiments que lui fournissaient les bourgeois, d'une phraséologie étourdissante, calculée pour frapper l'oreille et provoquer l'ahurissement. D'un verbiage grandiloquent, harmonieusement rythmé et rimé, hérissé d'antithèses saisissantes et éblouissantes, d'épithètes fulgurantes. Il fut, après Chateaubriand, le plus grand des étalagistes de mots et d'images du siècle. Ses talents d'étalagiste littéraire n'eurent pas suffi pour lui assurer cette admiration de confiance si universelle. Ses actes, plus encore que ses écrits, lui valurent la haute estime de la bourgeoisie. Hugo fut bourgeois jusque dans la moindre de ses actions. Il se signait dévotement devant la formule sacramentelle du romantisme, l'art pour l'art. Mais ainsi que tout bourgeois ne songeant qu'à faire fortune, il consacrait son talent à flatter les goûts du public qui paie, et selon les circonstances, il chantait la royauté ou la république, proclamait la liberté ou approuvait le bâillonnement de la presse, et quand il était besoin d'éveiller l'attention publique, il tirait des coups de pistolet. Le beau, c'est le laid. Et le plus bruyant de ses pétards. Il se vantait d'être l'homme immuable, attaché au devoir, comme le mollusque au rocher. Mais ainsi que tout bourgeois voulant à n'importe quel prix faire son chemin, Il s'accommodait à toutes les circonstances et saluait avec empressement les pouvoirs et les opinions se levant à l'horizon. Embarqué à la légère dans une opération politique mal combinée, il se retourna prestement, laissa ses copains conspirer et dépenser leur temps et leur argent pour la propagande républicaine, et s'attela à l'exploitation de sa renommée. Et tandis qu'il donnait à entendre qu'il se nourrissait du traditionnel pain noir de l'exil, il vendait au poids de l'or sa prose et sa poésie. Il se disait simple de cœur, parlant comme il pensait et agissant comme il parlait. Mais ainsi que tout commerçant cherchant à achalander sa boutique, il jetait de la poudre aux yeux à pleine poignée et montait constamment des coups au public. La mise en scène de sa mort est le couronnement de sa carrière de comédien, si riche en effets savamment machinés. Tout y est pesé, prévu. Depuis le char du pauvre dans le but d'exagérer sa grandeur par cette simplicité et de gagner la sympathie de la foule toujours gobeuse, jusqu'au cancan sur le million qu'il léguait pour un hôpital, sur les 50 000 francs pour ceci et les 20 000 pour cela, dans le but de pousser le gouvernement à la générosité et d'obtenir des funérailles triomphales sans bourse déliée. Les bourgeois apprécièrent hautement ces qualités de Hugo, si rares à trouver réunies chez un homme de lettres, l'habileté dans la conduite de la vie et l'économie dans la gestion de la fortune. Note. Le temps du 4 septembre 1885 fournit les renseignements suivants sur la fortune de Hugo. La succession liquidée de Victor Hugo s'élève approximativement à la somme de 5 millions de francs. On pourra se faire une idée de la rapidité avec laquelle s'accroissait la fortune du maître quand on saura que celui-ci réalisa en 1884 1100 000 francs de droits d'auteur. Ajoutons que celui des testaments de Victor Hugo qui contient la clause d'un don de 50 000 francs aux pauvres de Paris est tout entier écrit de sa main, qu'il est terminé et daté, mais non signé. Donner 50 000 francs aux pauvres, même après sa mort, dépassait ce que pouvait l'âme généreuse et charitable de Victor Hugo. Au moment de signer, le cœur lui manqua. Fin de note. Ils reconnurent dans Hugo, couronné de l'auréole du martyr, et flamboyant des rayons de la gloire, un homme de leur espèce, et plus on exaltait son dévouement au devoir, son amour de l'idée et la profondeur de sa pensée, et plus il s'enorgueillissait de constater qu'il était pétri des mêmes qualités qu'eux. Il se contemplait et s'admirait dans Hugo, ainsi que dans un miroir. La bourgeoisie donna une preuve significative de son identification avec le grand homme qu'il enterrait au Panthéon. Tandis qu'elle conviait à ses funérailles du 1er juin toutes les nations, elle ne fermait pas la bourse et ne suspendait pas la vie commerciale et financière parce que le 1er juin était jour d'échéance des effets de commerce et des coupons des valeurs publiques. Son cœur lui disait que Victor Hugo, il poeta sovrano, aurait désapprouvé cette mesure. Lui qui, pour rien au monde, n'aurait retardé de 24 heures l'encaissement de ses rentes et de ses créances. La légende de Victor Hugo, 1885, d'après l'édition de 1902.